Bienvenue pour Allo Tibé,
présenté par Myriam Piccinali.
Avec la complicité de Ludovic Tirole de 48 FM, votre radio en Lozère, à Mende. Nous partons ensemble pour le Tibet, à travers des lectures de textes sacrés et profanes appartenant à la littérature tibétaine ancienne et ses sources indiennes que l'on peut qualifier de littérature d'éveil. Et nous voici à nouveau fidèles à notre rendez-vous avec nos auditrices et nos auditeurs. Et nous vous saluons très chaleureusement. Et nous nous retrouvons aussi avec le Tibet. Alors, nous avons entamé depuis le dernier numéro une nouvelle série de lectures sur la culture indo-tibétaine. En abordant d'une part un texte contemporain qui s'appelle donc « En attendant la neige ». L'auteur est Lacham Gyal, qui doit avoir une quarantaine d'années, je pense, actuellement. Donc, paru aux éditions Piquier, traduit en français par Françoise Robin de l'INALCO. Un assez gros ouvrage. Et l'autre, c'est donc tout à fait différent. La vie de Milarepa, racontée par son disciple, Rishumpa. Donc, ses méfaits, ses épreuves, son illumination, traduit du tibétain par Jacques Bacot. Alors, je reprends un petit peu l'ambiance donc, du roman « En attendant la neige ». L'action se passe dans l'Amdo, c'est la province au nord-est du Tibet, qui a été très tôt en contact en fait, avec les marchands chinois. Nous avons lu les parties de préface de l'auteur et nous y avons découvert sa grande passion pour la littérature française, ce qui nous a fait très plaisir. Il s'agit en fait dans ce texte de l'autobiographie romancée, on va dire, de l'auteur, qui est né en 1978 et il est vice-directeur de l'Institut de recherche sur les études tibétaines de Pékin, donc il vit en Chine. Mais nous avons fait un zoom avec Françoise Robin et l'INALCO et d'autres personnes, bien sûr, et nous avons compris que bon, le Tibet est dans son cœur, vraiment. Hein, ils font régulièrement des voyages avec sa femme au Tibet, etc. Voilà. Mais bon, c'est un exemple d'une parfaite adaptation à la vie chinoise, et c'est quand même remarquable. Et alors, dans ce magnifique texte, nous découvrons la vie dans un village de montagne avec le narrateur et ses fidèles amis, Tarpel, je vais dire, Nima Junjup et la jeune Saldrun. Alors, ils ont à peu près 8 ans. Hein. Et donc, dans la première partie, nous avons vu que la Cham a écrit dans la neige avec ses pas une lettre et son père l'a félicité pour ça. Voilà. On va parler de cette lettre. Il est sûr et certain que dans son esprit, une lettre était juste un jeu parmi tant d'autres, comme ceux auxquels on jouait d'habitude. La main glacée de Saldrun, touchant la peau nue de mon torse au travers de la poche déchirée de ma chemise, m'a chatouillé. Et j'ai ri de bon cœur. Je leur ai ensuite montré le motif tracé par mes empreintes de pas au milieu de l'aire de battage. Les copains ont hurlé en chœur. « Menteur ! Ça, c'était trace de pas, pas une lettre !»« Ça, c'est ce qu'on appelle le ka dans ka-ka-ga-na, espèce d'imbécile » ai-je rétorqué en imitant mon père. J'ai poursuivi. « Vous ne connaissez même pas le ka ?»« Espèce d'imbécile toi-même !» a répondu Nima Junjup. « Comment sais-tu que c'est une lettre ?»« Je suis la réincarnation » de l'oncle tantriste. Alors j'ai de bonnes prédispositions karmiques. C'est donc ainsi que cette année-là, j'ai exposé à mes copains, avec leur morve au nez, les circonstances dans lesquelles j'avais maîtrisé les lettres. Moi aussi, je sais écrire ça. Tarfel, morve qui coule, a d'un coup sec reniflé la morve qui coulait sur sa lèvre supérieure, puis s'est élancé vers la lettre K, que j'avais tracé au centre de l'aire de battage. La petite queue qu'il laissait pousser derrière sa nuque bougeait et remuait au rythme de ses pas. Dévoré par une irrépressible angoisse, je me suis élancé rapidement derrière Tarfel. Et l'attrapant par la queue, je lui ai dit « Personne n'a le droit d'effacer ma lettre !» Alors Tarfel, ne supportant pas la douleur, s'est retourné et m'a griffé au visage. Cette toute première bagarre de ma vie et que j'évoque maintenant, elle s'est déroulée contre Tarfel, mon copain, pour protéger une lettre. Pour moi, c'est un événement important, digne de trouver sa place dans mon autobiographie. Cette bagarre-là a tracé une griffure si profonde que sur mon visage que j'en ai saigné. Ma toute première lettre K, ma lettre K, que personne n'avait le droit d'effacer, Tarfel l'a effacée. Mon père, entendant mes pleurs, est descendu du toit et a demandé ce qui s'était passé. En sanglotant, j'ai accusé Tarfel. Tarfel, morve qui coule, a effacé ma lettre. Mon père, en riant, s'est évertué à faire cesser mes pleurs. En effaçant ta lettre, Tarfel a détruit un lien d'interdépendance, ce qui veut dire que plus tard, il ne saura pas lire. Puis il a arraché un peu de molleton à la couture déchirée des manches de sa veste rembourrée, a fouillé dans sa poche, en a sorti une boîte d'allumettes et a brûlé les traces d'ongles sur mon visage à l'aide de ce molleton. Moi, j'ai pleuré encore plus fort. Sous le coup de la douleur, mes larmes, glissant sur mes joues, sont tombées à terre comme un chapelet dont la corde aurait été cassée, et elles ont été absorbées par la neige. Alors mon père a essuyé mes larmes d'une main rude et assez vigoureuse. « Tu n'as pas honte ? C'est vraiment une honte pour un garçon de verser des larmes. » Une vingtaine d'années plus tard, à chaque fois que je repense à mon père, je ne peux que me rendre à l'évidence. Ses paroles, proches de la prophétie, étaient dotées d'un pouvoir étonnant de clairvoyance. Mon père, il y a 20 ans de cela, avait décrété que mon copain Tarfel ne saurait pas lire plus tard. Et cela a été vérifié par la suite. La malheureuse dispute passagère de ce matin-là, entre mes copains et moi, est tombée aux oubliettes. Essuyant d'un geste les larmes sur mes joues, j'ai couru comme le vent sur la neige de l'aire de battage. Je me suis délectée des tricks de mes pas sur la neige. Hors d'haleine, après avoir couru en tous sens, on a fini par se chauffer au soleil dans un creux coin ensoleillé, au pied du mur du carrefour central du village de Marnangue. Sous les rayons du soleil, d'épaisses colonnes de vapeur montées de nos chaussures en coton, détrempées par la neige, nos gros orteils pointant à travers leurs extrémités trouées. Nous, les garçons, on s'est agglutinés dans un endroit sec, au pied du mur. Alors, Sadrun, elle, n'a pas obtenu de place en lieu sec. Et elle a fait les 100 pas devant nous. Son ombre noire s'interposait entre nous et le soleil du matin et bloquait la douce chaleur du soleil. Ça nous a énervés et on l'a menacée. Le soleil d'hiver, on en est les maîtres et possesseurs. Si tu n'es pas d'accord, il va y avoir de la bagarre. Veuillez m'excuser de devoir poursuivre mon évocation de ce matin enneigé. En effet, non seulement ce matin enneigé signale la mise en route de l'intégralité de mes souvenirs, mais j'affirme sans hésiter que, pour ce qui est de mes trois copains, Tarfel, Nimadjunjoub et Sadrun, une pâle ligne, visible ou invisible, peu importe, a été tracée lors de la séance de jeu de cette matinée ensoleillée, indiquant l'orientation de nos vies qui étaient encore à venir. Ce matin-là, on s'est réchauffé au soleil, contre le mur. Se réchauffer au soleil, je suppose que c'est une sorte de coutume à laquelle les vieux, adultes et jeunes du village de montagne où je suis née s'adonnent sans préparatif ni concertation. Que ce soit les femmes, leurs mains dans leurs longues manches, que ce soit les hommes, les mains croisées dans le dos, au moindre rayon de soleil des journées d'hiver, chacun sort immanquablement de chez soi pour se retrouver de ci, de là, dans un coin de mur, au carrefour central du village de Marnangue, le visage offert au soleil et se réchauffant tout son content à ses rayons. Les grands disent que notre village de Marnangue a la forme d'un stupa, et dans mon enfance, lors des mariages et des fêtes, ils en faisaient d'interminables éloges, en brodant sur cette forme et à grand renfort de proverbes tibétains, mais je n'ai plus en tête leurs paroles exactes. Toutefois, ce que je garde toujours très nettement à l'esprit et que je ne peux pas oublier, c'est Pépé Crinière, le grand-père de Saldrin, et les bulles blanches qui se formaient à la commissure de ses lèvres quand il faisait l'éloge du lieu. Moi, il me semble que je fixais sa bouche dans ces moments-là et que je riais systématiquement aux éclats en regardant les bulles à la commissure de ses lèvres. Si, selon la formule des grands d'autrefois, le village de Marnang tout entier avait la forme d'un stupa, le carrefour central qui est le cœur de mon propos serait le nombril du stupa, sa niche centrale. Aussi petit que soit à Marnang, ce carrefour central était un lieu relativement animé. L'arbre à Naga poussait sur son côté est. La source, nectar naturel, jaillissait du pied de cet arbre. Le manikang du village était situé à l'ouest du carrefour central et orienté vers l'est. Le grand four à fumigation lui faisait immédiatement face dans ce carrefour central du village de Marnang, où demeurait intacte l'essence du village ancien et où résonnaient en permanence les bêlements clairs des moutons et des chèvres, la mélodie claire de la conque religieuse et les rires clairs des puisatières. Quand j'ai par la suite quitté Marnang pour errer de par le monde, quelle que soit ma destination, j'ai réalisé que chaque lieu possédait un centre qui lui était propre, et j'ai eu l'intuition qu'en dépit des différences individuelles, le sens profond de cette centralité était le même pour tous. Et le carrefour central de Marnang me hantait dans ces moments-là. Je voulais juste vous donner une explication sur... Bon, le stupa, c'est un shorten, hein, c'est, on l'avait dit la dernière fois, c'est-à-dire un petit monument religieux, bien entendu, qui contient en principe les restes de quelques saints, quelques personnages particulièrement influents, on va dire, sur le plan spirituel. Et c'est aussi un repère, par exemple, dans l'école enneigée. Vous voyez, c'est un repère aussi. L'arbre Naga, alors l'arbre Naga, c'est donc les Nagas, ce sont les dieux du sous-sol et surtout des eaux. Donc on fait référence ici à des cultures un peu chamaniques, si vous voulez. Et il n'y a pas un endroit où on... Enfin, on imagine que ces êtres sont partout. À l'institut où je fais des séminaires régulièrement, nous avions un vieux maître ces temps-ci, qui est un tibétain, bien sûr, qui venait de Katmandou, de la maison mère, hein, du monastère. Il fabriquait des offrandes. Il a fait un atelier avec toutes les personnes qui étaient là, des offrandes à Naga, avec de la pâte de tsampa, de l'orge, qui font sécher. Enfin, voilà, il faut de l'huile particulière, du beurre, un peu de sucre. Voilà. Et là, ces petites choses-là, qui sont comme des perles, on va dire, en fait, il les laisse sécher pendant à peu près 3 semaines. Et ensuite, il les disperse dans la nature, au hasard. Mais je lui dis, Geshe-la, où sont les Nagas ici? Et il me dit, mais ils sont partout. Et le Manikang, je pense que c'est le Kang, c'est la maison. Donc Mani, ce sont les prières. Om Mani Padme Hum. Hein. Mais comme il y a un glossaire, en fait, je crois, si je retrouve. Le Manikang, je ne voudrais pas vous dire d'erreur. Manikang, voilà. À Namdo, la plupart des villages possèdent leur Manikang, littéralement bâtiment à Mani. Le terme Mani, d'origine sanscrite, est un extrait du mantra d'Avalokiteshvara, Chenrezi en tibétain, Bodhisattva de la compassion, et a fini par acquérir le statut de terme générique pour évoquer toute formule sacrée. Voilà, Mani Mani. Dans le Manikang, les personnes âgées se réunissent quotidiennement pour prier ensemble et elles actionnent un gros boulet à prière collectif en tirant régulièrement sur une corde qui lui est attachée. Donc voilà, le Manikang. Ce matin-là, Saldrin, n'ayant pas obtenu de place à l'endroit sec au pied du mur du carrefour central, elle a fait les 100 pas devant nous. Nous, les trois garçons, on était assis en lotus, les jambes rondes comme un tambour, dans le recoin ensoleillé au pied du mur du Manikang, l'air avisé, à la manière des hommes adultes. À un moment, Nima Junjup a dit « Je suis un moine ». Paume jointe, yeux fermés, il a psalmodié avec vigueur des syllabes incompréhensibles. Ses postillons ayant atterri sur mon visage, je lui ai asséné une tape sur la tête. « Contrôle ta salive !» Nima Junjup s'est arrêté de psalmodier et a dit d'une voix douce « Plus tard, je vais être moine, alors il ne faut pas me toucher le crâne. » Puis, refermant les yeux, il a repris sa psalmodie. Quant à Tarfel, il a fait comme s'il était un père de famille et, enfonçant dans sa bouche un morceau de bois tombé d'une branche de l'arbre Naga, dont il prétendait que c'était une pipe, il a tiré dessus à petites bouffées et, se tournant vers Saldren, a dit d'une voix impérieuse « Femme, je dois aller garder le troupeau. Prépare un encas. » Alors Saldren a fait comme si elle était une femme adulte. « Et puis quoi encore ?» Tarfel morveux qui coule. Je préférerais au bout du monde plutôt que de t'épouser. » Prenant un air affolé, elle s'est agenouillée devant moi. « Ça alors, j'ai oublié de traire la vache, quelle étourdie !» Plongeant sa main frigorifiée dans mon pantalon fendu jusqu'aux fesses, jusqu'à ma cuisse, elle n'a pas eu besoin de beaucoup farfouiller pour s'emparer de mon zizi prestement et directement. Ensuite, faisant comme si elle trayait un pis, elle l'a tiré vers le bas à plusieurs reprises, mouvement qui a durci mon zizi en quelques instants. Le durcissement de mon zizi m'a procuré une sensation indicible. Peut-être Saldren, elle, a pris peur du changement d'état de mon zizi mou. Elle a vivement retiré sa main. « Oh là là, le pis de notre vache a bien grossi !»« Ça, en fait, ce n'est pas un pis de vache, » ai-je dit avec dédain. Et s'il a durci, c'est parce qu'il a très envie de tracer des lettres. Tandis qu'on se réchauffait ainsi au soleil, les adultes, eux, balayaient la neige, tombée sur les toits et les hauts murs de leur maison, sur la route et ailleurs. Puis, ils ont tapoté leur veste et ouvert le verrou des étables, en voyant leurs bêtes à l'extérieur. Les bêtes se sont mises en branle très lentement et paresseusement, et elles ont cherché des pieds de mur orienté vers le soleil pour commencer à s'y réchauffer. Les adultes de Marnang suivaient de peu le bétail pour se réchauffer au soleil. Nous, les enfants, parmi tous les villageois qui venaient se dorer au soleil, celui qu'on attendait avec impatience était Pépé Crinière, le grand-père de Saldren. C'était un trésor d'histoire. Sa crinière épaisse, son vêtement bordeaux, sa ceinture desserrée, sa légère voussure quand il marchait, les bulles qui se formaient à la commissure de ses lèvres quand il racontait des histoires, tout cela attirait immanquablement les enfants, bien évidemment, mais même les adultes, qui étaient avides de l'écouter. La tête dans les mains, clignant des yeux, on regardait à l'est du carrefour central. Mais ce matin-là, le grand-père de Saldren a été longtemps sans se montrer au carrefour central. Alors, on a demandé avec impatience à Saldren si son grand-père était déjà levé. Et nous reprenons la vie de Milarepa, traduite par Jacques Bacot. Notons tout d'abord que Milarepa, et c'est sa plus grande originalité, a dédaigné les écritures bouddhiques, bien que son maître Marpa en fût un des traducteurs. Il n'a retenu du Mahayana que la quintessence. Alors, je m'interromps parce que je voulais vous dire une chose importante. Aborder ce domaine si particulier de la mystique ne va pas de soi, hein, que ce soit dans toute n'importe quelle religion. On essaie de s'y préparer, mais on est quand même bien désarmé. Donc, le texte va faire appel à des notions fines, très, très, très subtiles. Donc, je vais lire lentement et peut-être après faire un petit commentaire. Voilà. Donc, on reprend sur Milarepa. Il n'a retenu du Mahayana, donc du grand véhicule, que la quintessence. Et il vécut en cynique. Un cynique, c'est-à-dire la mode grecque, en se détachant du monde. Hein. Nu, sans toit, sans un livre. Il rejette en bloc tous les textes. sa doctrine, la filiation spirituelle, le culte du père mystique, la bhakti, c'est-à-dire la dévotion en sanskrit, la bhakti poussée jusqu'à la déification du maître. Alors déjà ces notions, nous c'est tout de suite la secte, hein, dans notre Occident. Donc il faut bien replacer ça dans son contexte. Si vous voulez, à l'époque on n'a pas de bibliothèque en quelque sorte. Hein. Les bibliothèques vivantes ce sont les maîtres. Hein. Et eux-mêmes ont été formés à travers l'oralité par des paroles de maîtres dans une vie commune, bien entendu, la plupart du temps monastique, mais pas forcément. Donc, le père mystique, c'est ça, c'est-à-dire que quelque part, c'est quelqu'un à qui on donne sa vie, hein. C'est assez fort. Milarepa renonce aux œuvres mêmes, c'est-à-dire qu'il ne fait rien, hein, entre guillemets. Il rejette toute pratique extérieure et reste sur un terrain purement spirituel, c'est-à-dire uniquement en méditation. Là, je vous lis juste quelques passages. Hein. C'est ainsi que Milarepa, pour qui le monde sensible a juste autant de réalité qu'une image dans un miroir, vit conformément à cette idée, base de sa loi morale. Alors, le monde sensible, c'est-à-dire le monde que nous connaissons, puisque nous connaissons le monde selon comme nous l'appréhendons, avec nos sens, nos cinq sens et notre mental, si vous voulez, notre esprit, notre culture, enfin, etc. Et autant de réalité qu'une image dans un miroir, parce que la phénoménologie, mais nous y reviendrons sur ces notions, hein, la phénoménologie, c'est-à-dire l'étude du phénomène dans la culture traditionnelle tibétaine, spirituelle, elle est très différente de celle que nous avons nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on considère qu'on ne comprend pas véritablement la réalité telle qu'on la voit, parce qu'il nous manque des éléments. On ne voit pas, par exemple, toutes les connexions qui relient les choses l'une à l'autre, etc. Bon, peut-être qu'on y reviendra. Enfin, l'individualité de l'ermite disparaît comme objet de connaissance. C'est-à-dire que nous, en tant qu'individus normaux, je dirais, en gros, on est préoccupé que par nous-mêmes, hein, enfin, c'est-à-dire de ce qu'on est, de ce qu'on va devenir, de voilà. Donc, et on essaie de se connaître, enfin, dans le meilleur des cas, on essaie de se connaître, objet de connaissance. Bon. Mais là, non. Alors, le moi objet, c'est-à-dire le moi nous-mêmes, hein, en tant qu'objet, c'est-à-dire ce qu'on étudie, disparaît dans le sujet et se confond avec lui. Cette absence de dualité, c'est le fondement, si vous voulez, de cette spiritualité. Or, cette identité ne se prépare que dans l'ascèse et ne se réalise que dans la contemplation. Il faut l'oubli, l'effacement total du moi accidentel, du moi individuel, pour connaître le soi dans sa réalité objective. Alors, je ne sais pas s'il faut que j'explique un peu plus, mais peut-être déjà ça commence à s'éclairer. Le mot accidentel, bien sûr, parce que nous sommes nés comme nous sommes, mais bon, je dirais par accident, enfin. Vous voyez ? Tandis qu'il y a en nous quelque chose de peut-être plus permanent, plus profond, voilà. Bon, ce n'est pas évident hein, à percevoir. Hein. C'est donc la méthode intuitive et la voie mystique. Donc, c'est tout le chemin qu'un compli minerait pas. Donc, c'est bien ça qu'il faut essayer de comprendre. Alors, je continue les citations. Mais la pensée que la plastique orientale, c'est-à-dire les statues, etc., les images, les tankas, rend par la sérénité du sourire bouddhique et est une pensée détendue. Elle ne fouille pas, elle ne s'efforce ni ne s'épuise, elle contemple. Donc vous voyez, moi ça ne m'a pas tout à fait parlé, parce qu'en fait, quand on voit les tankas, les statues, ce sourire ineffable, hein, on ne peut pas le définir. C'est tout à fait ça, hein, c'est vraiment bien rendu là, hein, par Bako, la contemplation. Il y faut un effort de volonté prodigieux. Exact. Après que les sens se sont tus, l'activité cérébrale, dernière manifestation de l'individualité, doit cesser également. Alors là, on commence à se dire, mais on n'est pas fou quand même, on ne peut pas arrêter notre cerveau. C'est juste qu'on le met en veilleuse, si on peut dire. Excusez-moi, j'utilise mes mots, mais... Alors, je continue. Alors, suit cet état extatique qui, théoriquement, est la réalisation du soi réel dans l'identité du sujet et de l'objet, mais que le langage affectif n'exprime pas et qu'on ne peut connaître que par l'expérience personnelle. Mais c'est vraiment tout est dit là, hein. Donc un état extatique, effectivement, parce qu'on sort du monde, si vous voulez, et le soi réel, parce qu'en fait... En soi, on a des dimensions que nous ignorons, si on ne fait pas ce genre de recherche. Des dimensions bien plus vastes. Voilà. La synthèse de la conception orientale, l'harmonie cherchée et trouvée dans l'ascèse bouddhique, veulent au contraire qu'une préparation physique prélude à une longue activité mentale, que le contrôle du corps soit condition du contrôle de l'esprit. Vous voyez ? Donc, l'harmonie ne vient pas tout seul. Il y a une préparation physique. Bon, déjà, le fait de la nourriture, etc., le manque, je dirais, de superflu, mais aussi des exercices physiques. C'est-à-dire, il y a une sorte de gymnastique à faire. Elle est un peu variable selon les écoles, si vous voulez. Mais c'est très efficace, extrêmement efficace, parce que souvent, alors je parle par expérience de ce que je connais, c'est une gymnastique qui travaille en apnée, donc qui permet, au canaux d'énergie de se purifier. Et ça, je pense que c'est à ça que fait référence le texte de Jacques Bako. Alors je continue. Il n'y a pas d'empire, c'est-à-dire de pouvoir. Voilà. Il n'y a pas d'empire sur la pensée sans un préalable gouvernement de la volonté sur la vie animale. Bon, il emploie le mot animal sur la vie physique, si vous voulez. C'est ainsi que le contrôle de la respiration entraîne mécaniquement celui de l'attention. Et j'ajoute de la concentration, bien entendu. Au Tibet, pays des grands froids, le jeu méthodique de l'air dans les poumons a un premier effet physique que l'Inde plus chaude semble avoir ignoré ou négligé. Le nom de Milarepa, qui veut dire Mila, vêtu de toile, Ré, c'est toile en tibétain, Repa, celui qui porte la toile, est dû à cette particularité qu'il méditait vêtu de cotonnade à la limite des neiges éternelles. Là encore, nous sont interdites des expériences qui demandent des années de patience et d'observation silencieuse. Voilà. Ben je corrobore tout à fait. Ce qui étonne plus encore, c'est que, sans se réclamer d'une révélation, sans appel au sentiment, l'idée pure est séduite des peuples innombrables et qu'elle ait maintenu sa séduction au cours des siècles. Il est évident que, bien sûr, ces cultures se sont déployées, comme vous savez. Hein. Le catéchisme, qui a été répandu à profusion dans l'Asie centrale et l'a converti d'enthousiasme, est un résumé court et abstrait de la théorie de l'illusion. Alors là, il faut que je dise quelques mots. C'est-à-dire l'illusion dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire on ne peut pas comprendre les phénomènes du monde parce que nous ne connaissons pas les connexions secrètes entre les choses. Hein. Les choses, les êtres, en fait, tout ce qu'on voit. Hein, voilà. Et en effet, l'idée que l'homme sait avoir sa racine dans l'homme même et qu'il expérimente se renouvelle et lui reste attaché. Il nous faut enfin définir la compassion bouddhique, qui est l'essence même de ce livre. Il n'est plus à démontrer que notre pitié, elle aussi, est très subjective, assez récente d'ailleurs. Elle s'applique à soulager, à supprimer certaines souffrances. Elle cherche moins à empêcher de souffrir que de crier. Donc cette notion de la compassion, elle est vraiment fondamentale. C'est l'homme dans le temps que vise la métaphysique d'un Milarepa et la morale de cette métaphysique. Celles-ci n'ont pas la valeur sociale ni l'opportunité de notre, entre guillemets, saine philosophie, qui sont une force à nos yeux d'Européens pratiques et une faiblesse à des yeux orientaux, une preuve de relativité, parce qu'ils voient dans les nécessités sociales une très pauvre contingence. D'ailleurs, il y a une singulière ironie dans les effets de causes si contraires. L'idéalisme oriental est plus avantageux moralement, plus pratique socialement que notre réalisme. Il suffit de comparer la spiritualité, la douceur des peuples héritiers de l'idéal indien, avec le matérialisme et l'incroyable brutalité de la civilisation occidentale. Je crois que ça se passe de mots et de commentaires. Merci à vous tous pour votre écoute et à très bientôt pour la prochaine émission de Allo Tibet.
Let's go.